بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الدرس الماضي أخذنا الحديث الرابع، حديث ابن مسعود. نحن فون لي بري كاتريم حديث سولي دابا ابن مسعود كي qui nous éclaircit sur la création, la formation de l'homme dans le ventre de sa mère, que cela a lieu pendant 120 jours. Ensuite est envoyé l'ange qui vient pour lui insuffler le souffle de vie et écrire ce qui est relatif à son destin, son temps de vie, son registre, ses œuvres et à ce qui sera de ceux qui réussiront ou qui échoueront. Et à la fin du hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y a des gens qui feront des œuvres, des gens du Jannah jusqu'à la fin de leur vie. Et juste avant de mourir, peut-être que leur livre les rattrapera, ils feront des œuvres, des gens du feu, et finiront par y rentrer. Ou le contraire. Hadith qui appelle à rester entre la peur et l'espoir. Non. Al-Yum, Sanuhawil Nakhouz Hadithain. On va essayer d'en prendre deux. Le cinquième et le sixième, si le temps, biznillah ta'ala, nous le permet. Yaqulu fil hadith al-khamis, cinquième hadith. An umil mu'minin, abdillah Aisha, radiyallahu anha, qalat, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha malisa minhu fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwaya, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Donc ce hadith selon Aïcha, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente ou innove dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Rapporté par Bukhari al-Muslim. Et dans une version chez Muslim, il dit que celui qui fait une œuvre n'étant pas de notre enseignement, cela est rejeté. Yaqul al-Musannifu, Hafiz al-Ta'ala, donc l'auteur, le commentateur, Cheikh Al-Abbad, il dit « هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته. » Donc ce hadith est un fondement dans le poids des actes apparents. Que les actes ne peuvent être pris en compte que s'ils sont en conformité avec la législation. Et cela s'ajoute au hadith, le premier qu'on avait pris du kitab, que les œuvres ne valent que par leurs intentions. Donc ces deux hadiths, à eux deux, démontre les conditions fondamentales à remplir pour qu'une chose soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. La première, la sincérité. Et la deuxième, la conformité avec la sunna. Un acte qui n'est pas sincère pour Allah Azza wa Jal, il est rejeté. Et un acte qui n'est pas en conformité avec la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rejeté. Et les deux se basent sur une condition également essentielle, qui est l'islam. Cela n'est valable que pour le musulman. Donc première condition, l'islam, puis l'intention, puis le suivi prophétique. Et ce hadith concerne les actes d'adoration. Vous voyez, les actes d'adoration. De toute façon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu pour enseigner la religion. Pas les choses de la dunya en soi directement. Bien qu'on a eu, on a profité de pas mal de choses qui servent dans la dunya, mais le rôle du messager, c'est d'être là pour être un annonciateur et un avertisseur, qui annonce la bonne nouvelle et avertit du châtiment. ثانيا إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير مختبرة، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. Donc une adoration, un acte d'adoration, comme par exemple faire le wudu, le ghusl de l'janaba ou la salat et autres, lorsque ces adorations sont accomplies en transgression avec la législation, c'est-à-dire d'une façon sans précédent en religion, alors c'est rejeté. C'est rejeté, ce n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit cela sera considéré comme une bid'a, ou soit alors comme un acte qui est faux, mal accompli. يدل ذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما الوليدة والغنم فرد عليك. Il donne l'exemple de ce jeune homme qui a été employé par une personne dans son foyer et qui, malheureusement, en est arrivé à forniquer avec la femme de cette personne-là. D'accord ? Ce hadith est rapporté dans l'imam Bukhari. Et ce jeune homme a avoué son acte. Et son père de ce jeune homme a voulu savoir comment, justement, rectifier l'erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc ils sont partis voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant que le père, il a dit, mon fils a travaillé chez un tel et il a eu des rapports avec sa femme. Et il dit, le père, toujours, nous avons demandé à des gens, dans le hadith, des gens de science, qui ont dit qu'on doit donner un certain nombre de moutons et d'animaux en compensation pour l'acte commis. Je n'ai plus eu bon souvenir du hadith bizarre, mais il y avait kana fi hada. El Nabi, donc il a dit, on voudrait que tu nous informes du jugement d'Allah Azzawajal dans cette question. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est à la base ça qui fait. Donc il a dit, je vais t'informer du jugement d'Allah Azzawajal dedans. Déjà, tout ce que tu as donné, c'est rejeté. Et une esclave. Et il y avait du bétail à donner, barakallahu fik, et Kazalik, je crois, c'est libérer une esclave. Ou la donner à la personne lésée. Al-Muhim, c'est un jugement qui leur a été donné. Il n'a pas été cité par qui. Et le Nabi s'en sème, mais il a dit non. Tout ça, c'est faux. Tout ce que tu as donné ou quoi, c'est rejeté, ce n'est pas accepté, Shalahan. Il a dit, ton fils doit être flagellé. D'accord, 100 fois. Car à la base, il était bikr, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu de mariage au précédent. Et kazalik, il doit être banni du lieu de son lieu de résidence pendant un an. C'est ça le jugement de celui qui fornique, en étant bikr, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu de mariage. Et après, dans le hadith, il était dit que la femme a été interrogée, avec qui il a commis l'acte, est-ce qu'elle avouait, elle reconnaissait, elle a dit que oui. Elle a été lapidée, car elle était mariée. Même, elle était mariée. Donc le shahid, c'est qu'ils ont voulu sincèrement se repentir et rattraper l'erreur. Cependant, ils ont été mal renseignés. Donc ce qu'ils ont fait comme acte, ça a été rejeté. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Ala radd alayk ». Ce que tu as fait, c'est rejeté. Celui qui commet cet acte-là, le jugement d'Allah azawajal, c'est ceci et cela, pas autre. D'accord ? Pas autre. Et cela est valable pour plein d'actions. Des fois, des gens, ils émettent des conditions ou autres, des choses qui ne sont pas du lieu de la sunna, en les mettant comme conditions religieuses ou quoi, cela est rejeté. Car il n'y a aucune preuve à l'appui. يقول ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة وصاحبها مستحق للوعيد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدث أو آوى محدثة فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. Ce hadith montre que celui qui aura fait une innovation, sans précédent bien sûr dans la religion, que celle-ci est rejetée, et qu'il est sous la menace d'un châtiment. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos des gens d'El Medina, en particulier El Medina, que celui est Ardatha, ça peut avoir deux sens dans le hadith, ça peut avoir le sens d'avoir fait une bid'a, et ça peut avoir le sens d'avoir commis un crime. Donc celui qui fait une innovation ou qui commet un crime ou qui abrite un innovateur ou un criminel, alors il a fait l'invocation qu'il ait sur lui la malédiction d'Allah et des anges et de tout le monde sur lui. Al-bid'a, al-maqsoud biha, huwa kullu amal lam yakun ala ahad an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa la fi kitab wa la fi sunna wa qusida bihi ta'abbud. C'est tout acte qui n'a pas été connu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui n'est pas présent dans le Coran non plus, qui s'est déroulé après lui et par lequel on veut par cela la dévotion, c'est-à-dire se rapprocher d'Allah. C'est ça la bid'a dont le hadith auquel le hadith fait allusion. Ce n'est pas toute bid'a. À la base, bid'a, c'est-à-dire innovation et des innovations dans la dunya, elle ne rentre pas dans ce jugement-là. Vous voyez ? Là, ce sont les innovations en religion, des choses nouvelles. Donc celui qui fait une chose nouvelle en religion, que ce soit volontairement ou pas, car des fois, par ignorance, on fait des actes, sans s'en rendre compte, ou on peut voir un hadith qui n'est pas authentique, alors que on peut croire qu'il est authentique alors qu'il ne l'est pas ou quoi, ce qui amène à commettre un acte que le Nabi sans seul n'a jamais fait. Et t'en as, ils font des bidas, en sachant que ce sont des bidas, mais en pensant qu'elles sont bien. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que toute innovation est égarement. Toute. Sans exception. Qu'elle soit grande ou petite. Après, ces bidas, il y a celles qui sont mufassiqa, qui rendent pervers, et celles qui sont mukafira, qui excluent de la communauté, qui te rendent mécréant. Des choses que les gens font pour s'approcher d'Allah azawajal. Donc, c'est un acte d'adoration. Et cet acte-là, ça rend dans le shirk, par exemple. Même. نعم. إيل دي الرواية الثانية التي عند مسلم عام من الرواية التي في صحيحين لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. Et la deuxième version du hadith rapportée par Muslim, elle est plus générale car elle vient fermer des portes également. La première version c'était quoi? Celui qui innove dans notre religion, ceux qui n'en fait pas partie, celui est rejeté. T'as des gens, ils vont faire quoi? Ils vont faire des bidas, ils vont dire, mais c'est pas moi qui l'ai innové, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Donc moi, ça, c'est pas valable. Le hadith, ça s'applique pas sur moi. Et l'autre hadith, dit quoi? Celui qui fait un acte, n'étant pas dans notre enseignement, il est rejeté. Donc, toi aussi, tu rentres dedans. Celui qui a instauré la bidah, celui qui l'a accompli. Quand même. Il y a des gens, ils ont voulu faire une différence, que le moutadir, c'est celui seulement qui a instauré la bidah et pas celui qui l'a fait derrière. On dit, les deux, ils rentrent dedans. Les deux, ils rentrent dedans. Bien sûr, celui qui l'a instauré, il est pire. Celui qui suit dedans. Et une fois que la preuve lui a été établie, il prend le même jugement. Car même s'il n'a pas instauré lui, en le faisant, il la propage. Et contribue à ce que celle-ci se répande au sein des gens. قال لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته كجمع القرآن في المصاحف أو تدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك. Et il dit, ne fait pas partie des bidars, des choses qui aident à préserver la religion. Comme par exemple, lorsque Othman, radiallahu anhu, a réuni le Coran en un seul mushaf. D'accord, parce qu'avant, les sahabas, ils avaient tous certains avaient des feuilles par-ci, par-là. Certains, ils avaient le mushaf qui était éparpillé et avec différentes lectures. Et certaines également qui contenaient encore des versets qui avaient été abrogés. Ainsi de suite. Donc par crainte que cela n'amène à une division par la suite, ou quoi, Othman, radiallahu anhu, a décidé de tout réunir en un seul mushaf avec une écriture. C'est pour ça qu'on appelle mushaf bilkhat al-Othmani. On a un mushaf qu'on a aujourd'hui, celui qu'on a là actuellement qui est entre nos mains. Il est selon l'écriture qu'a ordonné Othman. C'est-à-dire il y a des règles d'orthographe, pour ceux qui connaissent la langue arabe, qui ne s'applique pas en dehors du Coran. Les choses que tu vas apprendre, toi, dans la langue arabe, de base, de façon littéraire, dans le Coran, elles s'écriront différemment. D'accord ? Ça, c'est des choses qui sont khas au Mushaf. En dehors du Mushaf, on n'écrit pas comme ça. C'est comme si un exemple, je sais pas, moi, demain en français, on dit le mot cheval, et il finit avec un L. Et après, dans une terminologie spécifique, le mot cheval est fini avec un E. On sait que c'est avec un L, mais dans ce domaine-là, il s'écrit avec un E. C'est pas une faute, genre on connaît pas, on connaît. Mais là, il y a une raison précise. D'accord ? Comme ça, quand tu vois cheval avec un E, tu sais que ça vient de telle chose, directement. Donc le Khat Othmani, celui qu'on a dans le Mushaf, on n'écrit pas avec en dehors du Mushaf. Sinon, tu te mettrais à transgresser les règles qu'on appelle Imla. En arabe, c'est l'orthographe, en fait. Donc demain, si jamais vous apprenez à lire et à écrire, vous allez apprendre avec les bases littéraires. Et ensuite, quand vous saurez lire dans le Mushaf, vous allez dire, mais normalement, c'est pas comme ça. Il n'y a pas d'erreur dans le Mushaf. Dans le Mushaf, c'est écrit comme ça spécifiquement. Vous voyez ? Les choses que tu auras apprises en dehors, si tu verras dans le Mushaf, elles sont certaines, c'est pas tout. Hein. Elles sont pas nombreuses non plus. Elles sont différentes. Et dans le Mushaf, c'est comme ça, faut pas toucher, c'est comme ça que c'est. Également, il dit, les livres qu'on a, Methelen, qui réunissent des règles dans la langue arabe, dans le sarf, dans le tajwid, ces choses-là n'étaient pas présentes à l'époque du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'en avait pas besoin. La langue arabe, il la maîtrisait. Le tajwid, il n'était pas d'apprendre Irfel, ou l'idram, ou Arel Zalika. Toutes les règles qu'on a dans le tajwid, c'était mémorisé, entendu et appliqué aussitôt. Par exemple, à leur époque, quand ils écrivaient, il n'y avait pas les harakat. La dhamma, la fatha, la sukun, il n'y avait pas ça chez eux. Il n'y en avait pas besoin. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Les points, c'est avant la venue du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Au tout début, les Arabes, ils écrivaient, comme tu l'as cité, sans les points. Par exemple, le shin, le sin, c'était pareil. Le zod et le sod, c'était pareil. Le ta et le va, il était pareil. Le tha, le ta et le ba, c'était pareil. Il n'y avait pas les points pour le différencier. Mais si Allah Azzawajal te wafok un jour pour avoir une certaine aptitude en comprendre langue arabe, tu verras qu'on va te mettre des phrases, tu arriveras à lire même sans les points. Parce que tu vas déduire les mots. Tu vas savoir à peu près ce que c'est. Désigner la ta'ala. Donc le shahid, c'est qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas des bidars, ce sont des moyens qui permettent justement de préserver la religion et qui ne sont pas en elles-mêmes une adoration bidatiha. Ce sont des moyens. D'accord ? Ce sont des moyens. L'acte d'apprendre est une adoration. Mais la façon dont le livre, il écrit les règles, ne sont que un moyen. Enfin, donc des outils. Quand même, des outils. C'est comme par exemple, on a un haut-parleur pour faire l'azan. Tu vois ? C'est pas une bida en soi. Parce que le but, c'est quoi ? C'est que l'azan, il soit entendu. C'est un moyen qui permet justement d'y parvenir. Ça n'existait pas à leur époque, mais il était connu que le muazzin levait la voix. Donc c'était le but à atteindre. Par contre, les choses qui étaient réalisables à leur époque, dont ils avaient besoin et qu'ils n'ont pas faites, alors là, on n'a pas les faire non plus. Les choses dont ils auraient eu besoin à leur époque, qu'ils étaient en moyen de faire, mais qu'ils n'ont pas faites, qu'ils ont délaissées, ce n'est pas pour rien. Donc nous, aujourd'hui, on ne doit pas les faire non plus. Ajouter des choses. Yaqul. Donc ce hadith nous apprend que tout acte dont il y a une interdiction également, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire, et que tu fais quand même si de base il est permis, mais à un moment précis, comme des salawat, à des temps précis, et des temps d'interdiction, comme vous le savez. Tu vas déjeuner le jour du Eid. À la base, jeûner, c'est légiféré, c'est même recommandé, mais il y a des jours où c'est interdit. Si tu fais cela, c'est-à-dire que ton jeûne, il est rejeté. Ta salat, tu la fais à ce moment-là, elle est rejetée, sauf les salats qui ont une cause. Les salats qui ont une cause, tu peux les faire n'importe quand. Mais salat, t'es quelqu'un, tu rentres avant de t'asseoir au masjid. Tu fais ce qu'on appelle tahiyat al-masjid, le rakat avant de t'asseoir. Même si c'est une heure où la salat, elle est interdite, tu peux les faire, parce qu'elles ont une cause. Par exemple, tu es habitué à faire deux rakats, tu n'as pas à faire le dos. D'accord? Eh bien, ces deux rakats, tu peux les faire. Ça donne une cause. Tu veux faire istikhara, tu as un truc important à faire. À un moment particulier, c'est un moment où la salat est interdite. À ce moment, tu peux faire salat car tu as une cause. Mais la surrogatoire absolue, tu ne la fais pas. Par exemple, tu viens, c'est l'heure du zénith, le soleil il est levé avant le dhor, tu te dis, tiens, je vais faire une salat. Non, tu ne la fais pas. Tu ne la fais pas à ce moment-là. Elle sera rejetée. Donc il y a des actes, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui sont de base légiférés pour des raisons, pour une hikmah, qui ont été interdits à un moment précis. Une erreur qu'on voit fréquemment ici, je vois beaucoup de gens y font, c'est قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Lorsque l'iqama est faite, il n'y a plus de salat à faire à part l'obligatoire. Souvent, tu arrives dans la salat, même si le takbir, tu en vois, il est en train de faire le tashahoud. Il est encore prosterné, parce qu'il faisait une surrogatoire d'avant. Il ne veut pas arrêter, il continue. Les gens, dans la wajiba, il est encore en train de faire ce qu'il pense être une sunnah. Ça, c'est grand srata. La salat qu'il fait, là, elle est bâtie, là. Le dit, je finis, ça n'a rien de finir, c'est fini, là. Ta salat, elle est rejetée. Pourquoi? Car l'obligation, elle est rentrée, là. Et cette salade surrogatoire t'empêche de faire l'obligation du takbir avec l'imam. Donc tu n'as pas à la faire. Car le takbir avec l'imam est une obligation, ce que tu fais là, ce n'est pas obligatoire. Donc tu fais devancer l'obligation. C'est pour cela la sagesse que le Nabi Sallam a interdit de faire une salade à ce moment-là. Pour te permettre d'être prêt quand l'imam il fait Allahu Akbar. Maintenant, si tu as commencé cette salade-là, tu as le temps de finir avant que l'imam fasse le takbir, tu peux la finir. Tu as le temps de la finir. D'accord? Le Nabi a dit si jamais tu es à la fin, et qu'il y a quand même qui se fait, t'es au tachad ou quoi, fini. Mais si jamais tu vois qu'il va faire le takbir et t'as pas fini, arrête ta salat et mets-toi dans le rang et fais avec les autres. Obligatoirement. Et moi aussi, il y en a plein, ils le font ici. Et quand tu leur dis, oui, mais c'est une salat, j'arrête pas si t'arrêtes. Ta salat là, elle est partie là, en plus t'as pris le péché et t'as raté des choses de la salat obligatoire. Mais Salim Kazalik, l'auteur le cite comme exemple, Al-Zabh li Eid al-Adha. L'égorgement pour le Eid al-Akbar, tu dois le faire à quel moment? Tu ne peux pas le faire avant la salat. Sans quoi? Ça sera juste une sadaqa. Ça ne sera pas compté comme une adhiya, comme un sacrifice pour le Eid. Il a un temps. Kazalik, des animaux précis. Et Bahamit al-An'am, c'est chameau ou ovin ou bovin. C'est pas tu viens, tu prends une poule. Ça ne sera pas accepté. Ou tu viens, tu prends un gros poisson. Bah, à la base, on n'égorge pas un poisson, mais bon. C'est pas accepté. Il y a des règles. Donc, celui qui fait cela, et qu'il est en transgression avec les règles, c'est pas accepté. Bon, allez, comme ça, là. Donc, dans ce hadith, on comprend par opposition que toute chose qui, elle, est en conformité avec la sunna, alors, elle est acceptée. Et ce qui s'y oppose, s'y refuse. Et sachez que la bid'a, c'est, on va dire, après le shirk, l'asrar, le plus grand des péchés. La bid'a, est ce que Iblis préfère. Pourquoi? Parce que la personne pense qu'elle fait un bien alors qu'elle fait un mal. Elle pense qu'elle s'approche d'Allah alors que ça l'éloigne. Et en plus, ça amène à changer la religion. La bid'a amène à changer la religion, à faire des nouveaux actes qui n'en font pas partie. C'est comme ça que les chrétiens sont arrivés où ils en sont, par la bid'a. Leur dit complètement changé. Vous voyez? Maintenant, quand je dis ça, les frères, ne pas comprendre que toute bid'a est pire que tout grand péché. Non, là je parle du djinns, la nature de la bid'a est pire que la nature du grand péché. Maintenant, il y a des actes parmi les grands péchés qui sont peut-être pires que certaines bid'a. Mathalène, quelqu'un qui vient et qui tue des gens comme ça, aura fait un acte pire que quelqu'un qui vient, par exemple, qui prend un chapelet et qui fait le tasbih. Oui. C'est pas pareil. Vous voyez? Mais, de façon générale, la bid'a, en elle-même, est pire que les grands péchés. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « En Allah l'aqbal tawbat mubtadi hatta yadar bid'ata » Que Allah n'accepte pas le repentir du mubtadi tant qu'il ne laisse pas sa bid'a. Donc, la bid'a également ferme les portes au repentir. Et la bid'a t'empêchera de boire Yom al-Qiyama, du bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens viendront pour boire, et il sera dit que certains seront refoulés du bassin, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dira soit ummati ummati wa sahabi ashabi, yuqal lahu innaka la tadri man ahdathu ba'dak. Quand les gens seront refoulés, il dit c'est ma communauté, il dit tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi, ce qu'ils ont changé après toi. Après, il a dit à certaines les mêmes baddel ou arrière. Il a dit que soient éloignés et soient repoussés les gens qui ont changé et qui ont modifié. Donc attention quand tu fais un acte d'adoration, apprends-le. Apprends comment il doit être fait. Et la base dans les actes d'adoration, c'est l'interdiction. Tu ne fais pas un acte d'adoration sans preuve et sans permission. Contrairement aux actes de dunya, que tu peux tout faire, la base, tant que tu n'as pas une preuve qui te l'interdit. L'adoration, c'est le contraire. Tu ne peux rien faire tant que tu n'as pas une preuve qui te dit « fais-le ». T'inventes pas un truc de ta tête. Sans quoi, tu pourrais en arriver à tomber dans ce jugement-là. Et le mot c'est-à-dire, celui qui innove, c'est comme s'il disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli sa mission. Il n'a pas fini la religion. On rajoute des choses. Yaqullah azza wa jal, Elium akmeltu lakum dinakum, wa atmemtum alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam adina. Aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Aujourd'hui, Allah, il a parachevé la religion, elle est finie, il n'y a rien à rajouter. Donc celui qui innove, c'est comme s'il disait, si, il faut rajouter encore. On n'a pas tout, il manque ça. L'islam, il est parfait, il est complet, il n'y a rien à ajouter. Donc la bid'a, ce qu'il faut retenir, et tout acte qui s'oppose à la sunna est rejeté auprès d'Allah Azzawajal. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Ils font des actes, tu les vois mouchtahidine dans l'adoration, on leur dit, dommage, tu t'es fatigué pour rien, tout ce que tu as fait, c'est baratil. Et là, ils s'offusquent. Pourquoi? Parce que ce que tu fais là, Nabi Salam ne l'a pas fait et n'a pas appelé à le faire. Il y a un exemple qui est souvent donné, qui est celui de Saïd ibn Musayyib, qui a vu un homme qui faisait salat à un moment interdit. Au Fajr, on fait que 2 rakat. Comme vous le savez, avant le Fajr. Lui, il en faisait plein. Ou plusieurs. Et Saïd ibn Musayyib, il lui dit, arrête de faire ça. Il a dit quoi? Là, il va me châtier pour la salat. Il a dit, non, il va me châtier pour la transgression de la sunna. La sunna, c'est de faire 2 rakat. Et légère. Ajoute pas. D'accord? C'est ça le suivi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. T'as envie? Est-ce qu'il a fait? Non, je fais pas. Tu marches pas à ta fougue et à tes envies. La religion, elle est structurée, elle est réglementée, elle est régie. On s'y tient, on n'ajoute rien. Et la bid'a, ça rentre dans l'ajout et ça rentre également dans le délaissement. Vous voyez? Ça rentre dans l'ajout et dans le délaissement de choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Yaqul mimma yustafad min al-hadith. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir de ce hadith. Tahalim et l'ibtida' fi din, qu'il est interdit d'innover en religion. Thaniyan an al-amal mabni ala bid'atin mardoud ala sahibi, que l'acte qui est basé sur l'innovation est rejeté. Thalithan an al-nahi yaqtadi al-fasad, que l'interdiction implique le rejet. C'est-à-dire, tu fais un acte qui t'a été interdit de faire et tu le fais quand même, il est rejeté. L'acte, il est batil. رابعا ان العمل الصالح اذا اوتي به على غير وجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فانه باطل لا يرتد به. Également que un acte qui de base est légiféré mais appliqué hors contexte, d'accord, là c'est pas une chose que tu as inventée, c'est une chose qui existe de base, mais tu ne la fais pas comme au moment il faut la faire. Mathalan, comme l'exemple qu'on a tout à l'heure, c'est rejeté également. Quelqu'un va dire, mais je jeûne, c'est pas une bidar le jeûne. Dis non, mais le faire tel jour, tu n'as pas le droit de le faire. خامساً أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس علي أمرنا. سادساً أن الصلح الباطل الصلح عفوا الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق الرد كما في حديث العسيف. Et qu'une conciliation, un jugement donné, émis, qui lui-même est faux, fait que celui-ci est rejeté. À l'exemple de l'histoire du jeune qu'on a cité tout à l'heure, qui est tombé dans Zina, et qui a voulu sincèrement expier la faute, mais l'a fait de façon non légiférée, cela a été refusé. Et le hadith, justement, de ce jeune qui a forniqué avec la femme de son employeur, donc les mains s'en servent comme preuve également pour l'interdiction et le danger de la mixité et des gens qui travaillent au milieu des femmes. Et encore plus ceux qui sont seuls avec elles. D'accord? Car ce jeune-là, là-bas, c'était pas quelqu'un de mauvais. Pour preuve, regardez comment il réagit à la fin. Mais s'habituer à cela un jour, deux jours, trois jours, jusqu'au jour où, chez un évien, tu tombes dans l'interdit. Au début, tu te sens fort, tu dis non, pas moi. Des meilleurs que toi, voyez, dans les meilleures générations que toi, ont été éprouvés par cela. Donc ne jamais se sentir à l'abri. Et d'ailleurs, le hadith qu'on va prendre maintenant également, il a une faïda qui est relative à ceci. Donc là, on a pris ce hadith de Aïcha, qui complémente le premier hadith qu'on a pris, qui est que les actes ne valent que par les intentions, et également que les actes sont en conformité avec le suivi prophétique. Et qu'il soit, bien sûr, qui émane d'un musulman. Taïe. Al-hadith, al-sadis, sixième hadith. Un Nabi Abdillah, un Nu'mal ibn Bashir, radiyallahu anhumah, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مدغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que le halal il est clair et que le haram il est clair et qu'entre les deux il y a des choses qui sont équivoques, ambiguës, que beaucoup de gens ignorent. Celui qui s'est préservé justement de ces choses ambiguës s'est préservé dans sa religion et son honneur. Ces choses, bon, le jugement n'est pas défini pour lui ou quoi, il s'en est éloigné, lui, il s'est protégé en religion et dans son honneur. Et celui qui tombe dans ces ambiguïtés-là, il tombe dans le haram à l'exemple d'un berger qui répète son troupeau aux abords d'un champ interdit, trop proche du champ interdit, et le troupeau est sur le point de pénétrer ce champ interdit. Il n'a pas laissé d'espace entre le champ interdit et le troupeau, trop proche. Et il a dit justement, le Nabi s'en souvient, que l'exemple justement de ce champ interdit, il a dit tout roi a un champ interdit. Avant les rois, ils avaient un champ dans lequel ils avaient des animaux, peut-être des chevaux, des richesses, dans lesquels personne ne pouvait rentrer à part eux et les gens qui étaient délégués pour s'en occuper, les gardes, tout ça. Sinon, des champs interdits, des terrains interdits, des lieux interdits. Et il a dit que les champs interdits d'Allah Azawajel sont les choses qu'il a rendues haram. Donc, faut pas les pénétrer. Ensuite, il a dit, n'est-ce pas que dans le corps, il y a un bout de chair, s'il est vertueux, tout le corps le sera. Et que s'il a mis les corrompus, tout le corps le sera. Il a dit, il s'agit du cœur. Le cœur. Donc maintenant, comme l'auteur le cite, ce qui concerne le halal et le haram, il y a trois catégories. La première, le halal. Clair. Deuxième, haram. Clair. Troisième, shubuhat. Équivoque. Ambiguïté. Pas clair. Exemple de halal clair. Les fruits. Les légumes, le poisson, quand même, de l'eau, boire de l'eau. Des choses qui sont haram claires, l'alcool, la chair de porc, la viande haram qui n'a pas été gorgée, l'on d'Allah Azzawajal, les drogues, les relations avec les femmes et que ça conjugale, ce genre de choses. Des choses qui est haram, qui est claire, qu'on connaît tous, en général. Et ensuite, il y a des choses dont les gens ignorent le jugement. Mais il a bien dit, la ya'lamuhunna kathir min an-nas. Il a dit beaucoup, il n'a pas dit tout le monde. Il n'a pas dit tout le monde l'ignore. Il a dit que beaucoup ignorent. Mais il y a des gens qui connaissent le jugement. Les savants. Les gens de science. Ou des gens qui ont étudié auprès des gens de science. D'accord? Des choses que pour lesquelles les gens c'est pas clair. Pour eux c'est clair. Il dit ça, je sais que c'est haram. Ou ça, je sais que c'est halal. Parce qu'il a appris. Il dit, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Que celui, justement, maintenant, une chose est devant lui, elle n'est pas claire. Il ne connaît pas le jugement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'abstenir, il ne la fait pas. En faisant cela, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il s'est préservé en religion et dans son honneur.
qu'à ne pas le faire ne lui coûte rien. Il l'aurait fait, ça aurait pu lui coûter cher. Vous voyez, ça aurait pu lui coûter cher. Et avec l'exemple du berger avec son troupeau. Et cela, ça s'appelle en arabe al-wara. Al-wara qui est traduit par la retenue pieuse. Tu te retiens d'une chose. Tu t'abstiens d'une chose. Car tu en ignores le jugement. Tu ne la fais pas. Ça, al-wara. Délaisser des choses qui pourraient te nuire. Tark ma kad yaduruka fil akhirah. Délaisser des choses qui pourraient peut-être te nuire dans l'au-delà. À ne pas confondre avec l'ascétisme. Al-zuhd. Al-zuhd wa tark ma la yanfa'uka fil akhirah. C'est délaisser des choses qui ne servira à rien dans l'au-delà. Même si elle est halal. Ça, l'ascétisme. Tu délaisses les choses qui ne servent à rien. D'accord? C'est pas tu t'alourdis de choses et là, ce qui ne sert à rien, tu dis j'en ai pas besoin. Hein? Et ce qui te sert, tu le prends. Même si c'est une chose de valeur, de qualité, tu peux la prendre. Tu peux être ascète et avoir une belle moto. Tu peux être ascète et avoir un bel appartement. D'accord? Être ascète, c'est pas forcément faire le miskin qui a rien, qui. Non. Tu prends ce qui te sert. Dans ta dunya. Et ce qui t'aide à te projeter dans l'Azawa Jel. Et si t'as les moyens, tu prends de la bonne qualité, prends de la bonne qualité. T'as des gens, ils sont riches, ils sont rares ceux-là, l'argent n'est pas dans leur cœur. Tu vois. Tu vas le voir, par exemple, acheter une belle moto, il va l'abîmer, il s'en fiche. Et t'en as d'autres, ils ont rien, ils vont se surcharger pour avoir la belle moto, tu la rayes. Vous savez déjà ce qui se passe. Une rayure sur la moto, ça y est. Tu lui as coupé un bras. Vous voyez, lui, c'est dans son cœur. Ça, c'est pas du zord. Ou même la moto, il l'a pas. La moto, il l'a pas, mais il rêve de l'avoir. Il a une voiture. Il peut se déplacer. La moto, il n'en a pas besoin. Il dit non, je veux cette moto-là. Tu vois, ça, c'est pas du zord. Il n'a pas les moyens de l'avoir. Il ne sert à rien. Mais il se met dans tous les airs pour l'avoir. Il va s'endetter, il va chercher, je ne sais quoi. Ou il fait il veut cette moto-là. D'accord? Je donne une moto en exemple, ça peut être plein de choses. Hein. Donc, à ce moment-là, la personne voit une chose dont elle doute, est-ce qu'elle est halal ou haram, et ce n'est pas une chose qu'il est obligé de faire ou quoi, il la délaisse. Il la délaisse. Il préserve son honneur en s'éloignant des choses ambiguës qui pourraient entacher justement cet honneur. C'est une règle que l'imam Ibn Rajab cite dans son explication de ce hadith et qu'on répète à chaque fois, tellement elle est importante et qu'elle est belle, c'est que les salafs disaient « Man waqa'a fi mawqi' ash-shubuhat fala yalummanna idha usiya bi adh-dhon » dans le sens que celui qui tombe dans une chose suspecte qui ne blâme pas les gens qui ont pensé du mal de lui. Masalène, t'es quelqu'un. On te voit tout le temps assis devant Masalène, discothèque. Vous passez, il y a un frère, tout le temps vous voyez devant la discothèque. Un jour. La semaine d'après, vous passez, il est encore là. La semaine d'après, il est encore là. Il dit, c'est quoi ce frère-là? Qu'est-ce que tu fais là, le frère? Tu as pensé quoi à ce moment-là? Non, il attend sa sœur. Et sa sœur, elle est où dans la boîte? Là, il a un moment, une situation où on peut penser que du mal de lui. On peut pas trouver d'excuses. Tu vois? Eh bien, si le frère, il est là, exposé aux yeux de tous, que les gens pensent du mal de lui, ils disent, ouais, Azubillah, les frères, vous avez le cœur malade, pourquoi vous pensez du mal de moi? Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là-bas ailleurs? Éloigne-toi de celui-là, au moins, au minimum. T'as un truc à faire halal, on sait pas. Attends plus loin. Là, t'es devant une boîte de nuit. Tu sais qui est-ce qui reste, qui est-ce qui rentre, qui est-ce qui sort. T'es là, comme ça, devant. Il peut avoir une raison d'être là. On ne dit pas qu'il n'y a pas de raison. Mais lui, il réfléchit avant de faire les choses bêtement. D'accord? Il reste pas à cet endroit-là. Il s'écarte. Vous avez aujourd'hui des choses qui se vendent, des boissons non alcoolisées qui se vendent, qui ont l'apparence de bouteilles d'alcool. Des bières sans alcool, ou des trucs, même du shampoing, des trucs comme ça. Tu vois. On va pas t'amuser à boire dans la rue comme ça. Parce que de loin, les gens vont te dire quoi? Tu crois qu'ils vont dire, oh non, attends, regarde, ça se trouve, c'est pas. Non, ils vont dire, c'est une bière, tout de suite. Il va avoir un chopomi, il va dire, c'est du champagne, tout de suite. Donc, à ce moment-là, il dit, ah, il y a des bières sans alcool, les frères. Tu vois, on dit, ah, c'est à toi d'être intelligent. bois pas ça dans la rue devant tout le monde. Les gens, ils vont dire quoi direct? Ils vont penser du mal de toi. Donc c'est toi qui t'es exposé à ce qu'on pense là de toi. Pardon? Donc il y a des fois, oui, les gens, on leur trouve des excuses. Oui, on les défend, et des fois, c'est indéfendable. Même s'il y a une excuse à personne, on dit c'est à toi de dévancer les gens et de leur dire « Eh, j'ai telle et telle raison. » Et la preuve de cela, c'est le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un soir près du masjid et parlait avec sa femme sans fille. Et il y a des gens qui sont passés au loin. Ils l'ont vu parler, ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parler avec une femme. Ils ne savaient pas qui elle était. Et quand ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parler avec une femme, ils ont accéléré. Et il a dit « Elle a dit sans fille. » Il dit « C'est ma femme, sans fille. » Après, ils ont dit « Subhanallah, ya sallallahu. » Nous, on n'a pas pensé de mal. Tu vois. Il a dit « Khashitu an yakzif shaytan fi kulubikum wa inna shaytan yajri majari bani adam majari dam. » Il a dit j'ai craint que shaytan ait lancé en votre cœur quelque chose et que shaytan court dans le à travers les veines du fils d'Adam. Ça veut dire il va te mettre direct, il va te faire penser du mal. Donc le Nabi sallam t'a informé que les gens vont penser du mal. Donc toi, fais en sorte qu'on pense pas du mal de toi. Si t'as vu, t'as fait une chose qui amène à ce qu'on doute, devant ces gens, dis-leur. Au fait, les frères, ils m'ont vu à tel endroit, c'est pour telle raison. Tu sais que t'as été vu à un endroit qui est suspect, mais tu sais que t'avais une raison de le faire, dis-le aux frères. Les frères, là, hier soir, j'étais à tel endroit. Azoubillah, qu'est-ce que je faisais là, mais il m'arrivait telle et telle galère, je vous explique. Khalas, tu t'es innocenté. Après ça, les gens sont plus à parler. Mais si tu dis rien, tu restes comme ça, tu penses que les gens, ils vont dire quoi? Au minimum, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils vont avoir au minimum un doute sur toi. Yahri, blanchis-toi, innocente-toi. D'accord? Donc ce hadith, après, il t'apprend cela. Al-Wara, et tu protèges ton honneur. Ton honneur, il est sacré. N'expose pas ton honneur aux gens comme ça, bêtement. Leur donne pas le bâton pour qu'ils tapent avec. Surtout nous, dans ces pays-là, les gens demandent que ça. D'accord? C'est pas demain, un frère, il fait une fille impressionnante dans la rue, après il crie Allahu Akbar, c'est trop content. On dit, Yahri, jamais tu fais ça. Jamais tu fais ça. Et dis quoi, c'est un takbir? Oui, mais pas en France, dans la rue, devant tout le monde. Tu vois? Tu vas te mettre toi en galère et tous les frères à côté de toi, khlas, c'est un camion qui va venir, qui va vous embarquer, vous allez finir au poste, ou je ne sais quoi, ou... Khlas. Enfin, réfléchis à ce que tu fais. On sait que le takbir, c'est bien. Mais en France, c'est plus pareil que... T'es pas en Algérie, t'es pas au Maroc. Tu vois? Donc, évite. Taïeb. Donc toi, les choses, ce hadith t'apprend que ce n'est pas tout halal, non plus que tu fais, et qu'entre le halal et le haram, laisse pas un trait, mais un périmètre. Laisse un périmètre. Sans quoi, le haram, s'il a une limite, un trait est là, tu peux tomber dedans très très vite sans même te rendre compte, comme l'exemple de ce mouton, de ce troupeau de moutons à Fouen, pour ce berger qui était trop proche du champ interdit. Trop proche. Donc si jamais les moutons avaient traversé le champ et que le propriétaire du champ aurait dit « Tes moutons, qu'est-ce qu'ils font là ?» Il va dire « Non, ils sont rentrés, j'ai pas fait exprès. » Il a dit « T'as pas trouvé autre que venir à la limite du champ, va plus loin. » Tu sais que c'est des moutons, ils peuvent courir, se disperser, sans que tu puisses les contrôler. Sois intelligent, il va dire « Anticipe tes moutons, mais les plus loin. » Tu vois. Mais à Salène, ils font ça même dans le code de la route, quand tu conduis. Tu mets un périmètre de sécurité entre des voitures. S'il freine l'autre, qu'est-ce qui se passe? T'es trop près de lui. Tu veux l'entrer en direct. C'est une chose qui est évidente, même chez les gens qui sont pas de l'islam. Tu mets un périmètre de sécurité. Et là, c'est un périmètre de sécurité religieux. Faut pas que s'il y a un problème, tu tombes directement dans le haram. Laisse, allez, un périmètre de sécurité pour te préserver. Toi, ton honneur et ton dîn. D'accord? Et l'islam est venu pour fermer les portes. L'islam est venu pour fermer les portes. Comme vous le savez, Mathalen, la fornication, c'est parmi les grands péchés. Et elle a une sentence très sévère. Et Allah Azzawajal veut notre bien. Qu'on ne commette pas cet acte-là et qu'on ne subisse pas la sentence. Donc des portes ont été fermées pour pas qu'on y parvienne. Pas de mixité avec les femmes. Pas de regard fixe avec les femmes. Pas de dialogue inutile et long avec les femmes. Pas de contact physique avec les femmes. Je parle de femmes étrangères. Vous voyez, ainsi de suite. Pour te dire que vraiment, si t'arrivais à tomber là-dedans, c'est que t'étais vraiment aux limites du champ interdit. Tu vois. Donc l'islam, c'est une rahma pour nous. Des choses nous ont interdites, pas pour nous faire du mal, mais pour nous préserver. Et quand on dit ça aux gens, on les conseille, on dit ouais, tout est haram avec vous. On dit non, le haram, il est très peu par rapport au halal. Comprenez bien, ce qui est haram, c'est très très peu par rapport au halal. À la base, la dunya, elle est pour nous entièrement. Sauf de ça, comme il a dit le frère Wahbi, sauf certaines choses qu'Allah il a interdites. Elles sont pas nombreuses. Et quand on te rappelle telle chose, elle est haram, c'est pas pour te punir, c'est pour te dire que ce haram va te nuire si jamais tu le commets, ou tu t'en approches. Tu vas te faire du mal. D'accord? Tu vas te faire du mal. Donc ce n'est pas de la dureté, au contraire. C'est une rahma. Tout comme toi, ton enfant, tu ne vas pas laisser jouer près du feu. Ton enfant, tu ne vas pas laisser jouer près des prises électriques. Quitte à lui mettre une tape pour qu'il comprenne. Vaut mieux que tu prennes une tape de moi que tu prennes un coup de jus. Vaut mieux que tu prennes une tape que tu te brûles avec le feu. Tu vois, une petite douleur pour t'en laisser une plus grande. Kazalik. Donc cela, ça en fait partie. Donc celui qui évite les ambiguïtés s'est préservé en religion, il s'est préservé dans son honneur. Et l'honneur du muslim, il est sacré. L'honneur du muslim, il est sacré. Et comme il a dit Ibn Omar, en voyant la Kaaba, il a dit « Inna kila azim indallah wa a'ird al-mu'min a'zam indallah mink ». Il a vu la Kaaba, il a dit que tu as une place immense auprès d'Allah Azzawajal, sauf que l'honneur du croyant a une place encore plus grande que la Kaaba. Chaque croyant, il a un honneur, et cet honneur a encore plus de valeur auprès d'Allah que la Kaaba. C'est pour ça que on fait pas de riba, médisance, on fait pas de namima, on fait pas de... on n'insulte pas, on n'accuse pas sans preuve, on ne laisse pas les gens. L'honneur du muslim, il est sacré. C'est ça la base. Tant qu'il n'a pas fait des choses qui amènent à ce que les gens parlent sur lui en s'exposant. Ah, par contre, les gens qui font des péchés à la zahir devant tout le monde, ça c'est autre chose. C'est lui qui salit son honneur tout seul. D'accord ? Mais celui qui se préserve, et des fois ça arrive, il a une zalla, il a fait une glissade comme on dit, faut pas l'éclater, faut pas le dévoiler. Ça va venir dans des hadiths. T'as des péchés, quand tu vois que quelqu'un fait un péché et il sait que c'est haram mais il le fait discrètement dans son coin, va pas le dire à tout le monde. Va le voir, le conseille-le et tais-toi. Maintenant, s'il fait un péché, vous êtes tous autre chose. Ou s'il fait un péché qui nuit à autrui, conseille-le qu'il arrête, s'il continue, là, t'es obligé de dire aux gens, attention, lui. Ben, ça, tu sais que c'est un frère, un exemple, il peut voler chez les gens. On dit, ne fais pas rentrer chez toi celui-là. Pourquoi? Tu peux avoir des objets qui vont disparaître. Là, c'est un conseil que tu donnes aux gens. Mais avant de faire ça, t'as averti le frère Chahari, arrête de voler chez les gens. On sait que t'as volé chez un tel, on a des preuves. T'as que là, tu vois. Arrête. Sinon, ça va se savoir. Tu vois. Et t'apprends qu'il continue le frère. Et tu dis, bon, c'est comme ça, je vais avertir les gens. C'est pas tu fais un post sur les réseaux, tu mets sa photo et quoi. Non. Les gens qui sont autour de lui, tu les avertis. Que t'en as, ils font ça. Ils t'affichent à un stade, c'est incroyable. Tu vois. Il ne manque plus que l'adresse. Pareil. Ensuite. Attends, je vais me faire arrêter. La partie très importante de ce hadith, c'est ce qu'il dit, Ala ana fil jasad mudra, idha salahat, salaha al jasad kulluhu, ou idha fasadat, fasadat al jasad kulluhu, ala wa yal qalb. Qu'il y a dans le cœur, dans le corps plutôt, un bout de chair. S'il est vertueux, tout le corps le sera. Et s'il est corrompu, tout le corps le sera. Il s'agit du cœur. Donc la base, quand les gens disent Foulen il a un bon cœur, ou autre, on dit ça doit réapparaître à travers ses actes. Quand des gens ils font des choses, on dit oui, mais tu sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Il dit ce qu'il y a dans son cœur, ça m'intéresse pas. Moi. Ce qu'il y a dans son cœur, c'est entre lui et Allah Azawajal. Moi, je vois ce qu'il y en a pas en apparence, c'est pas bon ce que je vois. Donc, un arkoum à la zahir. Je juge sur l'apparent. C'est peut-être qu'il a un bon fond pour de vrai, qu'Allah lui pardonnera. Mais ce qu'il fait là, c'est apparent. Je juge. En islam, on juge sur l'apparent. Comme vous disiez tout à l'heure, l'exemple de ce frère qui, par exemple, devant une boîte de nuit. Tu vois? Les gens vont dire, oui, mais le frère, on connaît ceci. J'ai dit, écoute, moi, le frère, toutes les fois, j'en ai du travail devant la boîte de nuit, je le vois attendre à ce temps-là. Hein. Excuse-moi, mais bon, voilà, quoi. Je juge sur l'apparent. Maintenant, si vous avez un truc, allez le voir, conseillez-le qu'il ne reste pas là. Tu vois? Qu'il reste pas là. Et t'as des gens, par exemple, ils font du haram, ou ils s'exposent à un danger religieux, ils disent, non, moi, par exemple, il va toucher des femmes, serrer la main, il dit, non, moi, ça me fait rien, j'ai le cœur pur. Cette femme, c'est que t'as le cœur qui est déjà bien pourri. Si toucher une femme, ça te fait rien maintenant, c'est que ton cœur, il est plus pur du tout. Il était vraiment pollué au point que ça ne te fasse plus rien. Normalement, toucher une femme, si t'es ta nature d'homme, tu réagis, ça fait quelque chose. Si jamais tu vois que ça fait plus rien, pose-toi des questions. Pose-toi les questions. Tu vas prétendre être plus pur que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui n'a jamais touché de femme. Même pour le pacte d'allégeance, il ne touchait pas les femmes, même des femmes âgées. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « En yutrila hadukum ibra min hadith fi ra'sihi, ahwal min an yalmas mra'a la tahillu lah. » Qu'il ne parle que l'homme se rentre une épingle de fer dans la tête, est meilleur pour lui qu'il touche une femme qui lui est interdite. Et t'en as, ils sont là, poignée, la bise, la collade, même la tape dans le dos, tout ce qui s'ensuit, tu vois. Il dit, c'est pas ta femme, c'est pas ta sœur, c'est pas ta tante, c'est pas une mahram, tu ne la touches pas. Et t'as pas besoin de la toucher. Ah, maintenant, t'es un docteur ou autre, on parle pas de cas d'aroura, tu vois. Et il dit, ouais, mais si je fais pas ça, elle est vexée, laisse-la vexer. Toi, en faisant cela, vaut mieux qu'elle soit vexée, elle, que toi, tu prennes des péchés. Ça y est, faut pas des fois, les gens ont notre peur de blesser les gens. Vaut mieux qu'il soit blessé lui plutôt que toi, demain tu peux subir quelque chose pour ce genre de péché. Et n'oubliez jamais, on n'est pas là pour plaire aux gens. On doit montrer une bonne image, et cette bonne image n'est pas celle que les gens forcément s'imaginent. Justement, une femme te tend la main, t'enlève ta main, t'as fait une bonne image. Tu dis, désolé madame, je touche pas les femmes. Et tu l'expliques gentiment, tu dis, c'est un honneur pour vous que je fais ça. Parce qu'on va dire, ouais, je suis un diable, je suis impur, je fais, non, ça n'a rien à voir madame. Même les femmes de l'islam, je les touche pas. Ça n'a rien à voir avec musulman kafir. Alors là, vous êtes une femme étrangère, d'accord, par respect pour vous, votre époux ou quoi, je ne vous touche pas. Et normalement, s'il y a un minimum de pudeur, elle va dire, bon, d'accord. À même temps, si vous savez le niveau que c'est, elle va mal le prendre. Mais dis-toi, tu mérites pas que je t'honore, toi, vas-y. Enlève ta main. Et le lendemain, viens dans sa main, même pas tu lui parles. Dis-toi, c'est bon. Pas de respect. Tu te respectes pas toi-même, je vais pas te respecter. Je te respectais toi alors que tu te respectes pas toi-même. Ça sert à rien, t'en as même avec leur femme. Je fais pas la bise à ma femme. Tu vois? Ou ce qu'un frère m'a raconté une fois, qu'Aina, il a ramené sa femme. Hein? Ok, ma fille, après, quand elle est partie, il a dit au frère, alors, elle est belle ma femme, hein? Elle est belle ma femme, vous avez vu, hein? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Tu vois? Ils ont plus de jalousie, c'est fini. Sa femme, il veut que tu la vois, que tu la vantes et que, voilà. Et il est fier. Jusqu'au jour où t'apprends à ta femme, tu sais qu'elle est belle, et ben tout le monde sait qu'elle est belle, et tout le monde a vu sa beauté à un stade où t'as plus de secret, elle a plus de secret pour personne, quoi, en fait. Tu vois? Mais ces gens-là, généralement, ils ont pas de jalousie, de toute façon. Ils ont pas de jalousie. Donc quand son cœur, il arrive à ce stade-là, la personne, voilà, vraiment, c'est catastrophique. Elle dit carrément, c'est même, tu touches sa femme, ça lui fait rien. Toi, t'aimerais demain qu'on touche ta sœur? Ta mère? Alors ta femme. Ta femme, mashallah, mutahajiba, elle est là, elle se préserve. Et des gens, ils viennent, un homme, il vient, il veut la toucher. Tu n'as pas accepté. Et bien, comme dans le hadith, ça va venir dans le kitab plus tard, la yu'minu hadukum hatta yuhib li akhihi ma yuhib li nafsi min khayr. Qu'aucun d'entre vous ne croit véritablement, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Je ne veux pas que tu touches ma femme, je ne toucherai pas la tienne. Ça va de soi. Et même celle des koufars. Je ne touche pas vos femmes, également. Et en même temps, ça amène à ce hadith, tu préserves ton honneur. Moi, je touche pas les femmes. Quelqu'un qui touche pas les femmes, de base, il sera l'une des personnes qui sera de qui on pense, pour les gens qui ont un minimum de raison, on pensera le moins de mal. Genre, on va dire, ouais, un tel, il a fait ça avec des sœurs. On dit, franchement, c'est un frère, je le connais, même pas, il s'en a mon femme, donc j'aurais du mal à avaler ça. Parce que de base, on connaît de lui, il a une image de lui qui, déjà, il fait les causes pour s'éloigner des choubois. M1, qu'on voit comment tous les samedis soirs près de la boîte de nuit, après, on te dit, ouais, il fait ça, je serais pas surpris. Si j'ai pas de preuves, mais je serais pas surpris d'apprendre des choses sur lui. Et même l'autre, tu dirais, Yahri, tant que tu m'appelles pas une preuve évidente de ce que tu dis ou que lui le reconnaît, j'accepte pas ce que tu me dis là. Le frère, je le connais, un minimum, et je vois que de lui, de quoi? Une apparence qui est correcte. Je l'accuse de rien. Et pour que je l'accuse, faut que tu apportes des preuves évidentes. Pas, on m'a dit, ou à ce qu'il peut, là, un truc évident. Tu vois. Parce que l'honneur du musulman, il est sacré. Donc, le hadith t'apprend que si ton cœur est correct, le reste le sera également. Ça va apparaître à travers ton apparence, à travers ton comportement, à travers tes paroles. Vous voyez? Akaza. Et là, on parle de gens sincères. Après, t'as des gens qui jouent des rôles. On sait. On parle pas de ça dans ce hadith. Et les gens qui jouent des rôles, le hadith d'hier suffit comme argument que ça apparaîtra un jour. Ça apparaîtra un jour. Bismillah ta'ala. Yaqul mima yustafad min al-hadith.
أولاً بيّن تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بيّن وحرام بيّن ومشتبه متردد بينهما. Donc ce hadith montre que les choses dans la charia sont soit halal, soit haram, soit entre les deux, des choses ambiguës. ثانياً المشتبه لا يعلمه كثير من الناس وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله. Et que les choses ambiguës, que beaucoup de gens ne les connaissent pas, cependant certains les connaissent, avec leurs preuves. ثالثاً ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله. Qu'il faut délaisser les choses ambiguës, justement, les choses embrumées, tant qu'on ne connaît pas le jugement qui s'y rapporte. رابعاً ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها الحسية. Qu'on donne des exemples aux gens pour les choses abstraites par des exemples avec des choses concrètes. Mais ça donne l'exemple du wara, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec le champ et le troupeau de moutons, pour que tu arrives à comprendre. خامساً أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. Et que la personne, quand elle tombe dans les choses ambiguës, cela est moindre que tomber dans les choses qui sont claires. Évidemment. سادساً بيّن عظم شأن القلب وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. Cela montre la grandeur, la grande place du cœur et que les autres membres suivent le cœur. Que si jamais le cœur est bon, les autres membres seront bons. Et s'il est mauvais, les actes qui vont en découler seront mauvais. ويقال أن القلب من الجسد الجيش من الجيش. Que le cœur dans le corps est comme le général par rapport aux troupes. C'est lui qui dirige. Et si le général est mauvais, la troupe sera mauvaise. Voilà, كذا. سابعاً أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. Très important. Que le mal apparent indique un mal intérieur. Un mal apparent ne peut que dissimuler un mal intérieur. Et voire même plus grand. Comme encore le Ta'ala, وَمَا تُغْفِي سُدُولُهُمْ أَكْبَرْ. Et que ce que leur poitrine renferme est pire encore. Si tu vois quelqu'un qui te fait apparaître un mal, sache que ce qui est intérieur, c'est pire encore. Allez, l'image du iceberg. Tu vois l'iceberg, la partie émergente, en dessous, c'est quoi qu'il y a? C'est énorme. Eh bien, c'est pareil. ثامناً أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه ودينه من النقص وعرضه من الغيب والسلب. Et que justement se protéger des choses ambiguës et équivoques, cela amène une protection de la personne dans sa religion, de tout manque et de son honneur, de tout défaut, de toute critique. نعم. فهذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين. فسبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك. وفيكم بارك الله.